Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir sur La Route Inconnue, le mag bimensuel de Radio Grand Ciel entièrement dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. La Route Inconnue existerait, disons, moins sans l'épaule fraternelle de la revue des charges, dirigée par l'ami Jacques Morin, qui vous présentera en seconde partie d'émission sa revue des revues audio, tandis que Louis Dubot vous assènera avec sa verve habituelle son coup de cœur mensuel, tout juste avant de céder la parole au malicieux Jean-Claude Touzaille. Bref, que des bonnes gens ici sur la route inconnue, j'en veux pour preuve mon invité du jour, Yves Artufel, éditeur et poète, et c'est le poète à qui j'ai l'honneur de poser aujourd'hui quelques questions. Yves Artufel vient de publier chez Gros Texte « Mots d'amour, susurrer les pieds dans le fumier ». Vous aurez saisi l'allusion au malheureux prophète Job à qui ce livre est dédié, ainsi qu'au poète Gérald Neveu de référence, qui augure d'un livre un peu torturé, ce qui est un peu vrai, mais un peu seulement, car le ton est souvent à la dérision. Cher Yves, bonjour.
Bonjour, c'est gentil comme présentation.
Hein. Alors, en exergue à ce livre, il y a trois citations, dont l'une est attribuée à Gérald Neveu. Je la cite à nos auditeurs. Je ne m'habituerai jamais, et je te lègue cette simple profession de foi. Je trouve que cette phrase, on peut la dire de deux façons, soit dans une plainte, je ne m'habituerai jamais, ou sur le ton du défi, c'est-à-dire je ferai en sorte de ne jamais m'habituer. Vous l'entendez comment, vous, cette phrase de Gérald Neveu ?
Alors oui, alors le « je ne m'habituerai jamais », il est en lettres majuscules, effectivement, et il y a une ambiguïté, hein. C'est que c'est à la fois un cri de désespoir et un cri de révolte, quoi, ouais. Les deux. Et je crois que je l'ai rattaché à Job parce que la lecture que, bon, je dirais pas que je fais de Job, mais que certains ont fait, je pense à Chestov et Fondane, qui sont les deux autres citations que j'ai mis en exergue du livre, ça rejoint un petit peu cette idée que quand tout nous tombe sur la tête, comme malheur, désespoir, épreuve de la vie, on se débat comme on peut, on est à la fois désespéré et révolté, donc c'est à la fois cet aller-retour entre ces deux sentiments, la révolte et l'angoisse existentielle.
Ouais. Ce livre comporte deux parties. La première, Mots d'amour, susurrer les pieds dans le fumier, regroupe de longs poèmes où le lyrisme côtoie la goguenardise et où la tendresse est parfois piétinée par une avalanche d'injures. C'est comme si deux voix s'affrontaient en vous. Je me permets de vous citer, page 20, c'est un poème intitulé « Chant de flammes, chic de vie ». Voyez comme je grimpe au vent d'automne, quand s'incline la feuille, quand s'allume la flamme, que je conserve au cœur tel un morceau de pain. Le pain de seigle, le pain nomade, il a le goût de la tendresse, ce pain perdu de la jeunesse, des bords de route et des brins d'herbe qui s'égrènent sur le chemin avec l'odeur de lavandin, de sarriette, de romarin. Alors, à ce moment-là du poème, en pleine forme, j'affirme qu'aux perce-couilles de la morale, aux crache-foutre des tribunaux, aux emballeurs de la biture, aux biturés de la balance, aux fils de la mort en boursicote, aux discoureurs en vaseline, aux prétendants en prétention, enfin bref, je peux pas tout citer, oui. Mais voilà, ce poème est typique de ce paradoxe, en fait.
Oui, on le retrouve aussi dans la forme. La première partie est assez musicale, oui. Hein, et puis après c'est de la prose, hein, voilà, c'est comme une avalanche quasiment d'injures, quoi, voilà. Oui. C'est ça la révolte aussi, c'est Job qui va dire à Dieu, attends, mais qu'est-ce que tu nous m'as fait là, c'est pas juste. Alors lui, ça permet pas effectivement d'injurer Dieu, mais en sous-jacent, il y a ce mouvement de dire, je suis puni pour quelque chose, des crimes que je n'ai pas commis, quoi. Ouais.
Alors, il y a un gros travail sur la langue dans ce livre, hein, parce que la première partie, effectivement, est extrêmement musicale. Allez, on pourrait penser à Francis Jammes, etc. Et subitement, on est chez Céline, presque. Au niveau lexical.
Oui, puis il y a des mots qui sont inventés. Il y a de l'argot, des gros mots, du sexe.
J'aime beaucoup cette formule dans laquelle vous avez ramassé un peu la double tension de votre poésie, à la fois chant de noces et jus de chic. C'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment ça en vous. C'est comme deux voix qui dialoguent finalement. Et parfois, quand celui qui a envie de s'épancher le fait, l'autre Artufel arrive et lui dit pousse-toi de là que je m'y mette. C'est un peu ça. Ou...
Voilà. Souvent, c'est un truc que j'aime bien, moi, c'est quand je m'installe dans quelque chose d'un peu trop lyrique, j'aime bien le casser. Alors, on me le reproche parfois, des fois, c'est vrai que quand je suis un peu trop dans le sensible, dans l'émotion, j'aime bien arriver avec une grosse connerie qui casse un petit peu. C'est aussi le truc de pas trop se prendre trop au sérieux ou de mettre à distance... je parlais le désespoir, l'angoisse, la contourner avec je saurais pas dire, oui, peut-être des tentatives d'humour, quoi.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'ailleurs vous le dites à un moment un refus chez vous, un refus d'être consolé?
Ah oui. alors ça c'est peut-être une référence à Job et c'est la citation de Chestov, hein, qui dit Job qui dit à ses amis qui essaient de lui dire mais enfin résigne-toi à ton sort il dit que c'est d'ennuyeux consolateur.
Ouais.
c'est la formule de Chestov. Ouais. Voilà, donc lui veut pas être consolé, il veut qu'on lui rende justice, quoi.
Ouais. Et vous, Ivar Tufel?
Ah. si, alors moi, peut-être, c'est un petit peu, je dirais que je vais peut-être revenir à Gérald Neveu. Job, c'est peut-être plus un prétexte, mais l'ombre qui plane sur le livre, c'est celle de Gérald Neveu.
Est-ce qu'on peut dire en quelques mots nous parler de Gérald de Neveu, donc qui est un poète évidemment qu'on classe parmi les maudits.
Voilà, c'est un petit raccourci qu'on peut faire. Alors moi, je l'ai découvert très jeune à travers l'anthologie de Pierre Segers, Poète maudit d'aujourd'hui, et à travers le livre que lui avait consacré Jean Malheureux dans la collection Poète d'aujourd'hui, hein, aussi de chez Segers. Et il se trouvait que c'est un poète marseillais, j'étais un petit gamin de Marseille, j'ai dû le découvrir à 18 ans, 17-18 ans, où je devais être en fac, là, c'était... Et ce poète m'a accompagné un peu toute ma vie, depuis cette époque-là, et les poèmes qui sont dans ce recueil, certains ont été écrits à cette époque-là, j'avais 20 ans, quoi, que j'ai retravaillé, repris, ce sont des textes, c'est peut-être le bouquin que j'ai écrit, que j'ai le plus retravaillé, qui m'a donné le plus d'efforts. Qui m'a demandé le plus d'efforts de concentration, de retour. Voilà. Alors, Gérald Neveu, c'est un poète, comme Job, hein, qui tous les malheurs du monde lui sont tombés sur la tête. Hein, la misère, le manque d'amour, misère matérielle, les expulsions, l'alcoolisme. Et voilà, il s'est débattu comme un pauvre diable, là, avec tout ça, avec ses mots, avec ses pauvres mots. Ce que je dis souvent, c'est que ces gens qui s'y ont affronté ce désespoir, ces limites, qui sont finis souvent par se suicider, hein, ils nous aident aussi à vivre dans nos moments de douleur, se dire qu'on n'est pas seul, que d'autres ont traversé ça, ont mis des mots dessus, et ces mots, ça peut être des consolations, même si il y a ce beau texte de Stieg Lagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, mais on recherche quand même ça.
Hein. Oui. Alors, pour autant, vous vous défiez, là je vous cite encore, de ce verbe tant briqué qui te bousille la révolte. Qu'est-ce qui vous révolte en fait?
Alors, là, je me mets un petit peu à la place de ces gens-là. Hein. C'est la révolte, c'est l'injustice. C'est l'injustice quand on est en manque de l'essentiel pour vivre, quoi. Un toit, des amitiés, de l'amour, toutes ces choses-là. Il y a des gens qui en sont privés, hein, voilà. Et ça, c'est révoltant.
Ouais. Alors, le bonheur n'est pas loin parfois. Il est superbement exprimé dans ce poème intitulé « Ramener le bonheur à tout prix ». C'est page 23. Je me permets de le lire. « Moi, monsieur, moi, madame, moi, je veux à jamais seulement écouter les minutes heureuses résonner en mon chant. Un machin d'aube mièvre, certes, mais quand même, moi, je veux à jamais seulement planter des fleurs dans le sillon de ta flamme prométhée. De ta pierre si lourde, Sisyphe, moi je veux seulement sucer dans l'air du soir les seins de Pénélope, peloter notre histoire comme tout un chacun, bricoler la lumière dans les caves du ciel, m'éblouir d'évidence sur l'autel du plaisir, dessiner le passage d'une simple pensée, d'une question rugueuse, d'une mauvaise blague, dit c'est quand le matin. » Alors ça, c'est la première partie du poème qui est vraiment magnifique, je me permets de le dire. Vous êtes vraiment lâché sur les métaphores, sur vraiment sur une langue très riche.
Merci.
Alors après, vous dites, mais voilà que j'entends les pleureurs, ils veulent faire de ma chair des pancartes de bon sens. Alors là, je leur dis, ne cherchez pas les gars, moi je paye à profusion. Ça veut dire quoi, payer à profusion ?
Eh ben c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est ces gens qui ont traversé l'angoisse, le désespoir à ses extrêmes limites, quelque part ils nous sauvent nous, quoi. Hein. J'ai l'impression de, en tout cas moi personnellement, qu'ils ont pu à certains moments me sauver, quoi.
Ouais.
Je leur dois beaucoup.
Ouais.
Voilà, je me raccroche à eux. Il y a quelques jours, sur mon blog, j'évoquais un autre maudit, entre guillemets, c'est Francis Jock, qui est un petit peu de cette même famille. On pourrait citer Artaud, Prével, enfin tous ces gens-là, hein, qui ont connu les asiles psychiatriques, qui sont allés aux frontières et même au-delà des frontières de la folie, quoi, ouais. Qui ont perdu leur raison là, dans ce mal de vivre. Hein. Et moi, je m'en sors par contre. Hein,
ouais.
Voilà, je peux aussi mettre ça à distance, le regarder de l'extérieur. Hein, je ne sais pas si me le pardonnerez.
Alors, passons à la deuxième partie du livre, intitulée « Contrôle périodique de la tension du quotidien ». C'est une sorte... du quotidien.
Ce sont des textes du quotidien.
Oui, c'est une sorte de journal d'humeur, on va dire. On y entre un peu plus dans votre intimité, mais accueilli tout de même par un, je cite, hein, deux points, ouvrez les guillemets, je vous salue bien bas, bande d'épiphénomènes. Là, encore une fois, c'est un coup de pied au cul comme on en trouve chez Céline parfois aussi, non ?
Oui.
Aye.
Oui, c'est vrai, j'aime bien. Je m'ai écrit un jour, je vous aime tous, alors ne me faites pas chier.
On est vraiment donc dans la vie ordinaire, mais attention, pas question de l'enjoliver, hein, ou de la poétiser, vous dites les choses crûment. Bien que parfois la poésie se passe de votre consentement. Je pense à un texte, page 68, où vous finalement, je le dirai tout à l'heure à nos auditeurs, mais enfin vous êtes en train de cramer un ancien canapé convertible pour faire un feu. Et puis, finalement, cet ancien canapé, très ordinaire, vous amène à écrire un poème sans que vous le vouliez. Vous êtes mis finalement devant le fait accompli par la poésie, par les choses.
Alors cette partie, alors dans mes recueils, j'ai toujours ces petites notes là qui sont des notes du quotidien, qui sont pas tout à fait des poèmes, c'est des presque poèmes. Voilà, je crois que je suis, c'est vraiment un peu plus que de l'aphorisme. Or des fois c'est de l'aphorisme, c'est la petite pensée plus ou moins réussie d'ailleurs. Des fois c'est assez con. Hein. Et puis des fois ça penche un petit peu du côté de la métaphore, de l'image poétique, effectivement. Là, c'est un entre-deux que j'aime bien, un truc un peu inclassable, on ne sait pas trop ce que c'est des petites notes, voilà.
Il y a de très très belles phrases, hein. On rencontre encore cette image « J'ai enfilé mon beau costume de mauvaises herbes ». Ça veut dire quoi, ça?
Ah, alors là, on va laisser planer le mystère, hein, ouais. Si vous permettez. Oui, c'est polysémique.
C'est polysémique, quoi. Très bien, Yves Artufel, merci. Je rappelle le titre de ces livres, c'est « Mots d'amour, susurrer les pieds dans le fumier », suivi donc de « Contrôle périodique ». De la tension des méridiens et pas du quotidien. Contrôle périodique de la tension des méridiens, c'est aux éditions Gros Texte. Et c'est un très très beau livre qui a été bien salué d'ailleurs par les lecteurs et par la critique. Et c'est amplement mérité.
Merci beaucoup.
Merci, voilà, on va laisser passer un petit peu de musique et puis après nous allons plonger dans la lecture de ce recueil. C'était Martial Solal au piano. Et à présent, quelques poèmes d'Yves Artufel, extraits de son dernier ouvrage, Mots d'amour, susurrer les pieds dans le fumier, aux éditions Gros Texte. Jobberie. J'écoute encore la voix des frères lointains, éparpillés. Je l'écoute à nouveau. La voix des moussaillons meurtris. La voix qui pile son chant dans le mortier des solitudes, elle ne vieillit pas. Elle revient comme la soif de pays chaud, sous les plumes des hirondelles aussi fidèles. Elle passe sereine sur la mer déchaînée, elle bave des mots de douceur déchirante. Dans la chambre aux fenêtres sans rideaux, je vois la douleur consciencieuse, analphabète, des frères voiliers de fraternité bancale, des frères catapultes d'ennui et de résistance à l'ennui, je vois cette aiguille plantée dans leur gosier, où passe à jamais le vieux bétail, la poussière, les nuages, les insurrections qu'on espère, les matins de grande grève, cigare au bec. Je vois trembler leurs mains d'obstétrique tendresse, ce tapis sur lequel je déverse les cendres de mes haines, de mes peurs, frère refuge et frère port, j'accoste à votre quignon de pain. Hosanna, le train s'ébranle et les vaches ruminent en rythme. Il est né, et c'était un jour miteux, un jour moite, un très beau jour quand même, un beau jour dont on se barbouille les babines. Un beau jour de mousseline et de dentelle, il est né d'une plaie qui préface pour nous les éclipses, les épouvantes, les épouvantables cris, sauts de la matrice en orbite sur les rails de la vie,
Voici le cri capté dans les replis du vide. Voici les fées foutaises qui comptent et recomptent sur leurs doigts de comète l'amplitude du cri, son temps de vibration, la belle régularité métronomique de son cœur affamé de candeur et de dette. Il est né pour longtemps, rantantant, tambour magique, rantantantant, rythme des trains à quatre temps, et tire la charrue et cligne de l'œil, et roule et se détache, jeté comme une plainte, un étrange crachat, dans les ordures et les fougères de bord de route. Plainte calme de la mémoire et des animaux par la même occasion. Je me plains. Pardi, la coccinelle se plaint aussi, les mamelles lourdes se plaignent, c'est normal. Je me plains, pardi, depuis l'aube qui nous émerveille toujours, au coin des lèvres un mot, celui qui se renverse sur la table, au café, le bonjour, aux amis, jusque dans le fourreau des rêves au comptoir. Bonne nuit, mon amour, de misère et de miettes. Je me plains. Eh ben tiens, la douleur appartient tant aux actions en bourse qu'à la bêlante chèvre, tant à l'air pur d'azur qu'à nos tables souillées où des courtiers courtois fredonnent à tue-tête, le cœur des esclaves, la mélodie des cloches. Cotées en bourse, toutes les cloches sonneront comme un poème de Guillaume Apollinaire. Une pulpeuse colombe racontera l'histoire du petit train de mes picaillons, de ma carcasse d'oiseau fossile, de mes activités d'imbécile, de mes élans caméléons, du courant d'air et de l'embûche, toujours au bord de la fenêtre, babines humides, cœurs en émoi. Et que reviennent au balcon, belles mes anges, dans ma maison mémoire d'anges et de plumes. Les copains de haute route et leurs pompes de mistoufle. Les rois d'égout, pauvres rêveurs et malheureux, empêtrés dans leurs godasses, leurs godillots qui prennent les cailloux par le dessous, malheur. Et quand tu as un caillou dans le godillot, la route est longue, la lumière est différente, l'odeur exquise de ton corps, mère nature, n'atteint plus les narines du monarque enlisé dans la douleur, l'obsédante tant redoutée. Mon copain, il a dit, la douleur au pied gauche, ça vaut bien un cheval, tu crois pas? Voilà la charruesque sagesse, la sagesse étalon, la sagesse bête de somme et de labour, la sagesse qui bave au coin des lèvres rouges et sous les fripes noires des mauvais apôtres, son dégueulis, valse de Vienne, sa coupe sainte. Les dés alors sont balancés comme un crochet dans la gueule du hasard, mon copain à moitié. Les oiseaux les picorent et l'on rentre tout seul, un jeu perdant dans l'hypophyse, et de francs sourires comme des barbelés t'invitent à la fête des pigeons empaillés. Fallait pas sortir sans la casquette, fallait pas, fallait pas. Pauvre roi, pauvre rêveur, pauvre copain de tourniquet. Charnel et océane, l'étoile ivre, sans la chienne qui pisse à vos pieds. Faut s'habituer, qu'ils disent. Ah ça, pour ça, ils l'ont bien bonne. Jouer copain-copine avec l'habitude, qu'ils disent. Aimer la pierre noire et le prochain, qu'ils disent. La paille, la poutre et tout le Saint-Frusquin. S'enrouler à la roche, sans mêler les pinceaux, puis jouer au plus con. Patauger la gadoue, pendre la raison à la lucarne des fous, et se laisser couler, rouler, torrent jusqu'à la mer, laisser récumer les sanglots longs des violons de l'hiver, démonter les discours, meute des je m'en fous comme vagues aux naseaux de chevaux, braves bêtes dont on se fout, qu'ils disent, ah ils l'ont bien bonne les chevaliers du dire, sentencieux, rayonnant de présence divine avec leurs vieux arpèges d'étoiles bavardes et leurs dégoulinantes paroles d'aromates qui prétendent incruster ma chair et mes papiers, chérounette chérie, ma chair panier d'osier, ma chair et cœur battant au rythme des troupeaux, constellés de chaleur de chienne et de blasphème, de combat jusqu'à l'os à la moelle des défaites, ma chair qui se défend jusqu'au cratère plein du refus absolu. La raison du vertige est patati et patata. Le flouze, le pognon, le blé, l'oseille, on compte, on s'en frique, on se fricasse, on se défroque et l'on s'offusque, c'est rien. Le fric pique et épique, frappe et cogne et bourre et bourre. Ma chair est couverte de comptes et de bleus, du pouf-pouf de la solitude au bout du compte et ratatam, un homme parle, pétant misère et barrissant de beaux emprunts. Qu'est-ce qui nous reste au bout du compte? L'expérience fracassante du doigt dans le cul. Excusez, c'est peu de dire, n'ajoutons pas du baratin au compte en banque à la dérive. Un peu de bave à ton crédit au bordereau de la misère. Quelques massacres d'innocents dans nos jardins, des bifetons dans la confiture et ce râle d'ivrogne en manque de fric, piqué, pique, porphyre, rustique, merde divine, poisse artistique, que rien n'explique. Il fallait le dire à la douce mésange. Pauvre d'amour, me voilà Job, avec la main de l'aimé trouble posée sur le genou, l'imaginaire à portée de sablier. La main que foutu là, me voilà Job et rien que ça, allez viens. Nos soldats se sont bien bagarrés, ils ont goûté l'ivresse des belles randonnées au soleil des étés, les matins de rosée, les vapeurs délivrées par les élans du cœur, le tralala dièse et bémol, tout le bordel, des désirs et des incendies, la mécanique bien réglée des batailles et le point de douleur, pansement sur la main. Me voilà Job, pauvre d'amour, la main, genou, chacun son tour, la belle histoire. Genou l'instant à son erreur, à son errance, à l'infime décalage de ce destin qui nous fit prince un jour et pas de chance à un autre. Quand les anges du jardin s'illustraient le sexe, à bon compte, ô mes anges, allez, mangez-nous donc à présent. Vous vous êtes assez joués de nous. Le concert des lapins énucléés fait un sacré raffut. Tu le conçois, le rêve, toi? Tu le conçois comment? Une tempête dans l'orbite du lapin, et le lapin s'endort à côté de ses yeux, de sa douce fourrure, de son point de clarté. Voici donc comment tremble le rêve. Comme une vieille andouille, une vie écorchée, restent les formes vagues et creuses, les soirs de passions et d'ardeurs où l'on court côtoyer les grands classiques, les chaussures bien cirées, la sainte ch'touille, les religions, l'âne et le bœuf, la langue qui fourche, aimez-vous, les uns, les aulnes, si beaux au bord du fleuve et tellement proches de ce courant qui te lèche, toi, tes bouquins et ta chair luxuriante pour un temps encore, le cul tempête d'une barmède, ses remuantes fesses se balançant dans l'harmonie des vers, ou coin-cuinet des volets de canard. Restent les yeux pétris d'innocence, de désert, de confusion entre l'iris et la cornée, la trace d'un concert lointain ou d'un lointain lapin, la lumière qui tombe, la mort qui effeuille les larmes qui s'oublient contre l'écorce d'un arbre sec, l'oubli qui s'en revient chercher le semblant d'une étreinte, une parodie de quelque chose. Alors, tu le conçois encore, le rêve, toi? Ben ouais. Avec un petit air de musique, alors, pour couvrir le vacarme. Ce que les trains d'enfance ne comprendront jamais. Il paraît comme ça que l'on serait monté trop tôt dans la barque qui dérive légère, au courant, comme ça. On n'aurait pas compris que le train d'enfance a très vite déraillé et pas vu qu'embarquer comme ça de traviole vers l'horizon décousu qu'à autant chariot, nous voilà déjà causant depuis le cœur des pierres à d'impassibles étoiles, copines de là-haut. Nous voilà comme ça, pliés, de travers et tout froissés, exposant nos désirs de mouches enrhumées, planqués dans un mouchoir à carreaux dans lequel on s'est embouché que l'on s'en fout plein les doigts. Cette morve divine nous raconte l'histoire. C'est fragile un bonhomme, la voilà ton histoire, elle n'est pas compliquée. Sais-tu, amour en tube, que les siècles titubants contemplent l'ouvre-boîte électrique d'un terrible regard. Ça revient du profond des mamelles toujours pleines, fromage en devenir, le lait gicle dans l'œil, une épaisse laitance nous aveugle, de lourdes questions aboient dans le crépuscule et l'on n'y comprend rien. À notre père le putois, qui se balade quelque part peut-être. Qu'as-tu donc fait de ma maison, de mon noiselle, de mon oseille, de mes marmots, de mes putains, de mes pantins, mes animaux ? Coquin de Dieu, nom d'un bouffon, langue plâtrée par la farine, d'hostie avalée de travers, mamelle vide, nichons arides, vois donc ma peine, ma bannière, mon temps tout sec, mes soirs brûlés, à remâcher le grain d'espoir et l'amertume des souvenances dans des alcools de lune rance, aux chantes crèves des adieux, dans les draps sales des sacrifices, les vieux totems, le vent cocagne, les trop longtemps, les chaque instant, nom d'une bête, un artifice qui chante crève à fendre gorge, le tableau de nos vies, les pinceaux défoncés, se repeintant triste dans la tanière des artistes, loin, loin là-bas au bout des doigts, prêts à tomber ou tout repeindre, nom d'une immensité bancale et qui résonne contre l'unique oiseau et son chant désossé, nom des grandes orgues, des églises, des forêts, nom d'un os blanc qui se balance et te questionne. Qu'as-tu fait de nous autres ? Et pour finir, ce poème intitulé « Frôlement maternel aux élans de potence ». Ne me dites surtout pas que c'est maman qui a choisi la cravate au supermarché, la cravate pour me pendre. Elle disait pourtant « Ne crains rien, même si la chute des clartés premières te joue l'air de la noce du cou qui se donne à la corde. » Je n'avais rien à craindre, mais je me suis quand même tiré, vous pensez. M'en suis allé chercher le coin paisible où ressasser cette histoire, la belle histoire des poires mûres et juteuses, les lumignons enguirlandés de lumières et de merveilles, les femmes désirées se dressent dans l'alcôve des demain. De paisibles chevaux les escortent sans bruit. Quand je faisais les courses, je comparais les étiquettes. À maman qui ne rentrera plus, je murmure. Verse la lumière en mon corps, sur le chemin son air si frais. Verse la lumière qui console de ses mensonges si délicats. Dans les yeux de maman qui ne rentrera plus, s'agitent des tendresses de jument, des élans de sauterelles, des frôlements de flèches. Voilà, c'était quelques extraits seulement d'un ouvrage extrêmement riche, très travaillé, très réussi, d'Ivar Tuffel, « Mots d'amour susurrés les pieds dans le fumier », suivi de « Contrôle périodique de la tension des méridiens ». Ça, c'est la seconde partie de l'ouvrage avec des textes beaucoup plus courts. C'est donc publié aux éditions Gros Texte. N'hésitez surtout pas à aller sur le site des éditions Gros Texte. Vous pouvez également écrire pour commander ce livre à éditions Gros Texte Fonfourane. Ça s'écrit Fontfourane, 05 380 Châteauroux-les-Alpes. Gros Texte Fonfourane. 05 380 Châteauroux-les-Alpes. On écoute un peu de musique et je céderai ensuite la parole à notre ami Claude Verset.
If life's a little down, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, 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 go down on your knees. Carry on. Carry on. Your head is full of doubt. You can't figure carry on.
Carry on.
Between the time it takes, make all those mistakes, carry on.
Carry on.
It don't matter what you say or do, it just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack, take it off your back.
C'était Carry On par Gigi Cale. Ça faisait bien longtemps que je n'ai pas diffusé un morceau de l'ermite de Tulsa, Gigi Cale. Voici à présent le moment dévolu à notre ami Claude Verset, pilier de la revue des charges, poète bien évidemment, et qui va nous faire partager, je le suppose en tout cas, un coup de cœur.
Bonjour à toutes, à tous. Bonjour Christophe. Y a-t-il du courage à écrire un poème? La question peut paraître saugrenue, mais la thématique proposée cette année par le Printemps des Poètes, le courage donc, nous oblige à considérer l'écriture du poème, ou même la création poétique actuelle sous cet angle du courage. Ceci dit, je ne doute pas que nombre d'auteurs, de courageux recueils et de courageuses plaquettes n'auront rien à objecter à l'association de leur art à cette vertu virile. Et le titre que les éditions du Castor Astral donnent à l'anthologie qu'elles publient pour l'occasion, nous, avec le poème comme seul courage, les rassurera dans leur sentiment d'être insuffisamment considérés. C'est vraiment. Quel mérite y a-t-il à écrire un poème? Je souhaiterais que plus d'un ressente le ridicule de cette énonciation, à l'instar d'un Thomas Vineau dont la contribution à l'anthologie commence ainsi. J'écris avec le ventre plein, dans des habits propres, pas loin d'un café chaud, je n'ai pas de leçons à donner. J'écris avec un toit sur la tête, des enfants à côté, une princesse tout près, je n'ai pas de leçons à donner. J'écris assis devant un feu, devant un arbre ou une fenêtre, avec un arbre ou une fenêtre, avec le soleil ou la pluie, je n'ai pas de leçons à donner. C'est extrait d'un poème qui s'appelle « Les petites poches ». Et bien de même, Jean-Claude Martin, dans « Vie patinée », dont j'ai rendu compte ici même il y a un mois, constatait « Je n'ai eu que le courage des arbres qui tremblent au moindre vent et fracassent les vies en s'abattant. » On a pourtant envie de rappeler quelques cas récents où par exception, l'écriture du poème est acte de courage. Je pense aussitôt au poète de Fukushima, Ryoji Wago, demeuré sur place malgré la catastrophe, d'où il a écrit ses poèmes tweets rassemblés dans ce livre extraordinaire, J'ai de poèmes, paru chez Poepsie en 2016. Comme je pense à Asraf Fayad, nous confiant depuis sa cellule, je vis des moments difficiles. C'est le titre de son recueil. Mais l'un et l'autre auraient dû échapper à une recension limitée au domaine français. Et il faut l'ingéniosité de son traducteur et préfacier Abdelatif Labi pour retenir et énoncer malgré tout le nom d'Asraf Fayad dans l'anthologie. Côté français, si la présence d'un Joseph Pontus, paraît légitime pour son livre « Hors normes, à la ligne » paru à la table ronde, il est douloureux de noter l'absence de l'héroïque Philippe Jaffeux, qui avant tout autre aurait dû, selon moi, figurer. Au bout du compte, cependant, nous est présenté un ouvrage anthologique, solidement documenté, instructif, qui offre, à travers les contributions inédites de 84 poètes, un panorama recevable de la poésie de langue française d'aujourd'hui, à l'égal des volumes de l'année poétique que proposaient encore les éditions Segers jusqu'en 2009, est d'autant plus précieux que ce genre de recension, il faut le dire, depuis quelques années, est devenu rare. Une préface de Jean-Yves Rezeau est des mieux avisés. Après avoir expédié en deux lignes les civilités d'usage envers les initiateurs des manifestations printanières, et tenter d'infléchir la thématique vers une autre question, pour guère plus convaincante, faudrait-il du courage pour s'avouer poète ? Il fait utilement le point sur la situation de la poésie d'aujourd'hui. Situation qui n'est pas aussi catastrophique que certains voudraient le faire croire. C'est une citation. Et puis l'anthologie de 400 pages nous conduit, bon fort classiquement, selon l'ordre alphabétique, des poèmes de José Aclin, qui est l'un des animateurs de la vie poétique à Montréal, à Pierre Vinclair, dont nous avions fort goûté naguère les sonnets de Sans adresse. Ou si l'on préfère se fier aux dates de naissance, nous conduit d'Alexandre Bonnet-Terril, c'est la première fois que je lisais ce nom, il est né en 1999, il a donc 20 ans, à Frédéric-Jacques Temple, qui lui est né en 1921. Et parmi ces auteurs aujourd'hui à l'œuvre sont heureusement glissés 5 amis disparus au cours de l'année 2019 et auxquels le livre est dédié. Michel Baglin, Marie-Claire Bancard, Antoine Aimaz, Daniel Fanot, Félix MacLeod. Et l'on se réjouira de voir émerger, en ce qui paraît représenter le dessus du panier actuel, les écrits de Laurent Albarracin et de Florence Saint-Roch, de Sophie G. Lucas, de Mélanie Leblanc et de Jean-Pierre Chambon, aux côtés de Jacques Darras, Claudine Boy, Michel Deguy et Valérie Rousseau. Mais du courage, puisque c'est là-dessus que nous avions commencé, du courage, il y a longtemps qu'il n'en est plus question. Je vous conseille cependant de conserver cette anthologie dans votre bibliothèque comme témoignage de la poésie en 2020. Je vous en rappelle le titre, « Nous, avec le poème comme seul courage ». Elle est publiée au Castor Astral, elle compte 400 pages et vaut 15 euros. Allez, à bientôt. Hey, courage !
L'irrésistible causticité de notre ami Claude Verset. À présent, je vous propose de rejoindre sans plus tarder notre amie nantaise Cécile Guivarche, poète animatrice du site Terrassiel et qui nous revient elle aussi avec un beau livre sous le bras.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc là, je vais vous partager un coup de cœur qui est un petit peu particulier parce que pour une fois, il s'agit de notes et de réflexions sur la peinture et le dessin. Et c'est du peintre Alexandre Holland qui vient de publier donc aux éditions Poemsi, une collection qui s'appelle Aparte, un livre qui s'appelle « Je suis ce que je vois ». Donc ce livre couvre en fait 4 parties entre 1976 et 2020, qui c'est plusieurs parties, peuvent en fait correspondre à plusieurs publications qui ont pu être faites intérieurement aux éditions Le Temps qu'il fait ou encore chez Poemsi. Donc les précédentes éditions ayant été épuisées ici, tout est rassemblé dans un même volume qui est plutôt agréable avec des photos qui illustrent bien les réflexions du peintre. En fait, bon, évoquer la construction du livre n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Parce qu'en fait, dans chaque partie, les mêmes thèmes reviennent, les mêmes thèmes, et ils s'approfondissent. il y a un thème qui est principal, c'est l'arbre, parce qu'en fait, le poète puise essentiellement son inspiration dans les arbres. Il va tous les ans dans un petit masé dans l'Hérault, l'été, et il passe son temps l'été, en fait, à observer les arbres et donc à les peindre, à les dessiner au fusain aussi. Mais ce qui m'a vraiment intéressé dans sa réflexion, et c'est une réflexion qui peut être proche de la poésie, c'est sa réflexion de recherche. Comment on fait pour commencer le travail, le regard. Et un autre thème, c'est la surface du visible, les formes, l'espace, la profondeur, le souffle, la vastitude, l'élan, les vibrations, le mouvement, les couleurs, l'espace intérieur, l'énergie, les sensations, le silence, la présence, la respiration, etc., etc. Tous ces éléments-là, en fait, ce sont des titres donnés à des sous-parties du livre et pour lequel le poète, au fil des années, revient dessus et approfondit vraiment ces notions-là qui, pour moi, sont très proches de la sensation, de l'émotion aussi que peut éprouver un poète à regarder un arbre. Donc les arbres, il les considère vraiment comme des vieux amis avec lesquels le courant passe. Et il dit des choses très 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 belles comme être l'arbre, être naturel. L'arbre regarde bien vers nous. Depuis 50 ans, depuis toujours, je me tiens devant l'arbre et je le regarde. Est-ce que je le vois? Est-ce qu'il me regarde? Quelque chose se passe en tout cas dans notre nature, naturellement. Nous sommes vivants tous les deux à ce moment. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est la manière de décrire que peindre, c'est commencer par voir. Et dans le même temps, ce temps qui précède celui qui s'installe, de celui qui va se mettre au travail, parce que voir unifie, parce que voir, c'est aussi reconnaître le moment où une perception résonne dans le corps. Il dit aussi, la nature chaque année renouvelle complètement ma manière de voir. C'est probablement ce que j'aime le plus en elle. Ou encore, le monde qui nous entoure, le monde visible, il y a tellement de choses que nous ne voyons pas. Donc la question du regard est vraiment essentielle pour peindre, mais pas suffisante, parce que Holland lui s'intéresse autant à ce qui est visible qu'à ce qui est invisible. De la part d'ombre, d'invisible, qui permet de rencontrer la lumière, quand on regarde en fait un arbre ou un autre sujet, il y a toujours une part d'ombre qui permet d'aller vers la lumière. Il décrit comme ça, l'art nous travaille dans la profondeur, être sensible à son action et à renoncement à ce que nous croyons être, voir, comprendre, sentir. Aimer l'inconnu, aimer ce qui n'a pas de forme, qui n'est pas encore né, mais qui existe, comme un enfant dans sa mère, parce que conçu dans l'esprit. Donc, il observe ce qui change, ce qui est en mouvement, ce qui est dans la nature, ce qui est dans le balancement des arbres, dans la vibration des feuilles. Il regarde la nature qui est frémissante et des fois même il se fond un peu avec elle. Il y a une perception de la nature qui est habitée, qui le fonde et qui donne à ses réflexions vraiment une dimension proche, parfois même de la méditation. C'est une méditation active. L'arbre inspire, il suit sa respiration. Il le regarde, il rentre en résonance avec lui et il fait écho et avec tout ce qui fait vibrer en lui cet arbre. Les énergies aussi sont très présentes dans les recherches de l'an, notamment celle de l'arbre dont il se sert pour peindre. Voilà, il y a toujours un mouvement, quelque chose qui vient de très loin. Par exemple, il écrit comme ça, quelque chose arrive de très loin, un mouvement de l'infini. Il vient et disparaît. Reste un désir profond de le retrouver. La nostalgie respire dans le silence. Elle ne parle pas comme tout le monde. C'est une étrangère. Donc voilà, je peux vous inviter à lire ce livre qui fait quand même dans les 380 pages. Hein, mais parce que à lire Holland, toutes nos sensations se mettent en éveil. On regarde l'invisible, on regarde le visible, on regarde l'arbre, sa surface, mais aussi sa profondeur. On perçoit l'espace que nous avons entre l'œil et l'arbre. On suit la pensée du peintre, on se laisse guider par son regard et on sent comme cela vibre, on voit les formes respirer, on entre en résonance avec la nature. Et la force de sa réflexion donne à vivre sa peinture et on se dit que l'art de créer, autant celui de peindre que d'écrire, parce que j'entends écrire des notes ou de la poésie, nous permet de voir les choses d'une manière différente, de percevoir le visible dans l'invisible également, et de sentir comme les choses peuvent frémir, les sensations, les émotions qui nous atteignent. Et donc, c'est vraiment de la... nous invite ici à comparer parfois les deux disciplines, hein, que ce soit la peinture ou la poésie, un peu comme des formes de méditation active. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est « Je suis ce que je vois » d'Alexandre Holland aux éditions PoMC. Au revoir, à très bientôt.
She always plays.
Eh oui, il n'y a que sur Radio Grand Ciel que vous entendrez des morceaux pareils. Jethro Tull, Cross-Eyed Mary. L'heure est venue pour moi de refermer la porte des studios de Radio Grand Ciel. On se retrouve évidemment dans 4 semaines sur la route inconnue. Je vous laisse en tout cas avec Patrick Jokel qui nous revient avec un coup de cœur. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel.
Eh bien, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui est paru en 2019 aux éditions de la Boucherie Littéraire, un livre de Paola Pigani, et le titre « La renouée aux oiseaux ». Donc, c'est un beau livre vert sur le thème de la perte, une poésie intimiste qui se chuchote à l'émotion, en silence, une poésie qui avance à pas comptés sur des territoires d'enfermement. Ce matin, je suis retourné à l'arbre. On m'a laissé sortir. J'ai regardé le trou dans l'écorce. J'ai posé ma main sur la blessure. Depuis, il n'y a pas eu de passage. Il y a eu le temps de l'attente, puis celui de la perte. Perte du bébé, de l'enfant. Je dis, voici les mains qui ont tenu l'enfant. Et plus loin, on me donne des barbituriques pour oublier le petit corps d'os et de ténèbres. On est donc dans un enfermement, dans les murs avec des surveillantes, d'autres femmes, et le travail pour la collectivité, jardinage, lessive, un travail pour s'occuper les mains, pour retrouver goût à la vie quand tout ramène à la mort. On suit ainsi le poème de page en page dans ce douloureux dialogue avec soi-même et le vide. Un enfermement en soi, avec pour seul interlocuteur l'arbre, l'arbre et ses chants d'oiseaux. C'est La renouée aux oiseaux, Paola Pigani, à la Boucherie Littéraire. Et un autre titre, toujours de la Boucherie Littéraire, Hélène Dassavré, Made in Woman. On va commencer par un extrait. Apposer sur tous les humains cette étiquette Made in Woman, juste pour s'en souvenir lorsqu'ils s'échappent sans réfléchir de toi, de moi, d'un autre. Un geste, un mot, une habitude qui dit sans dire mais colporte souvent, sans le savoir, l'idée qu'une femme est un être moins important qu'un autre. Voilà, c'est le poème final, le poème qui figure en 4e de couverture et qui donne le ton à ce petit carnet poétique de la Boucherie Littéraire. Le carnet poétique, c'est cette petite collection pleine de pages vierges, une invitation à l'écriture, une invitation poétique à s'interroger sur ses propres regards, ses propres mots. Rien de culpabilisant, non, mais juste prendre le temps de souffler, de se demander si on est bien celui qu'on croit. Ce sont des poèmes en prise donc avec l'actualité de l'année, comme s'ils étaient écrits à l'ère du temps, à l'affût d'un respect. On va y croiser des noms, des histoires vraies, des doutes, des questionnements. On est loin du poète qui vit dans sa tour d'ivoire. Hélène de Favré voit bien, voit clair, et sa demeure est grande ouverte à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Il n'y a pas de préséance, juste de l'accueil. Un livre de l'humanité. Made in Woman, Hélène de Favré à la Boucherie Littéraire. Voilà, je vous dis à bientôt.